Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle Hervé Joubert Laurencin et il s'installe. Avec lui, nous évoquerons l'œuvre de Pier Paolo Pasolini, car il manquait du cinéma à cette semaine de printemps poétique qui veut placer la poésie au cœur des arts. Quatrième moment, commençons. Il s'agit, je crois, de la séquence de la fleur de papier. Un homme remonte la ville. À voir son pas, il va vers un horizon qui le rend heureux. Il va du trottoir à l'avenue et de l'avenue au trottoir, se faufile aux côtés d'un travailleur, demande ce que c'est que travailler, pourquoi faire, à quelle heure on termine, et les enfants. Tout ceci est fluide. La ville est prête à accueillir la joie débordante du joyeux. Seulement se superposent à ce plan des images de guerre, de bombes, je crois, de corps morts ou souffrants. Ces images tombent sur les corps par l'opération du montage et du fondu. Ce sont des images qui pèsent leur poids sans mots. En regardant ça, je me suis dit que c'est ainsi que nous allions, à l'abri peut-être, dans un coin tranquille peut-être, pacifié, mais tous nos pas alourdis par le savoir dialogue ininterrompu d'avec la guerre. Il est 16h passé de 2 minutes, savante, cruelle, magie, du montage, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vous écoutez pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h18, c'est le deuxième moment de notre émission et le quatrième moment, comme le temps passe, d'une semaine au cœur de laquelle se tiennent le poème et la poésie. C'est l'un des thèmes principaux du printemps des poètes, la poésie au cœur des arts. Jusqu'à maintenant, elle s'est placée devant et dans la danse, la peinture, le théâtre, la sculpture. Aujourd'hui, elle travaille un rapport concret au cinéma. La bande-annonce assez surprenante qui vante le film Acatone de Pier Pasolini en 1961 dit « Ne manquez pas une occasion de voir un film qui sollicitera votre intelligence », ce qui a de quoi nous faire jubiler a posteriori, mais elle dit aussi et surtout « C'est un film qui n'est pas né du cinéma, mais d'une expérience poétique ». C'est à la fois une proposition esthétique, presque d'emblée, et une sorte de constat biographique. Lorsque Pasolini réalise ses premiers films, il a fait, et fait pleinement, l'expérience poétique. Il est reconnu comme tel, comme engagé dans tous les sens du terme, dans cette profonde et rageuse entreprise littéraire. Que faut-il en conclure sur les liens entre cinéma et poésie? Rien de plus peut-être que cette phrase « faire naître de l'expérience poétique » qui est la vision de certaines scènes, certains plans, semble rendre à l'écran ce que nous disions de la page en introduction de la semaine avec Dominique Fourcade. Dans la poésie, tout arrive et tout peut arriver en même temps, dans une complexité de langage qui rend la riche complexité de l'expérience du réel. Hervé Joubert Laurencin, vous êtes l'auteur, entre autres, du dernier poète expressionniste écrit sur Pasolini aux éditions des Solitaires Intempestifs, ainsi que deux tout neufs livres dont nous ferons mention. À la fin de l'émission, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Je parle de ce premier film et peut-être de la spécificité biographique de Pier Paolo Pasolini, puisque quand il s'engage dans le cinéma, il est déjà reconnu en tant que poète. En quoi cela en fait-il un cas rare ? Voire unique.
Oui, ça en fait un cas rare. Ça en fait peut-être un cas unique. Unique, c'est difficile à dire. Mais si on fait le compte, il y a peu de cinéastes qui ont une vie complète de cinéma. C'est comme lui, c'est-à-dire qui sont entrés dans l'industrie du cinéma, qui ont fait des longs métrages, qui ont fait des courts métrages, qui ont fait des films d'auteur, qui ont fait des films qui ont rapporté beaucoup d'argent, qui ont fait des films en couleur, en noir et blanc, etc. Qui étaient aussi des hommes de lettres, d'abord, mais particulièrement des poètes. Il y a eu des romanciers, mais des poètes, il y en a très peu. Donc il y a Cocteau, sans doute, mais Cocteau n'a pas beaucoup fait de cinéma. Il a fait des films très importants, mais il n'a pas fait une carrière de cinéma. Pasolini, oui. Et effectivement, il est complètement reconnu, oui, c'est le cas de dire, hein, comme poète, à tel point qu'à un certain moment, on a pensé que sa carrière était complètement en deux morceaux, quoi. C'est-à-dire que quand il s'est mis à faire du cinéma en 1961, donc avec Acatone, rétrospectivement, on a pensé qu'il avait arrêté la poésie. Et c'est faux. Mais c'est faux, mais on s'en aperçoit plus tard. Parce qu'on peut croire qu'il a arrêté. En réalité, il n'arrête jamais. Il écrit des poèmes toute sa vie jusqu'à la fin. Il est toujours un homme de lettres. Mais il a passé pleinement au cinéma. Donc il faisait, je ne sais pas, dans un entretien journalistique, je me souviens avoir vu qu'il expliquait sa vie en disant qu'il faisait les 3-8. C'est-à-dire 8 heures pour le cinéma, 8 heures pour l'écriture et 8 heures pour la vie, c'est-à-dire la vie, la nuit, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait.
Voilà. Est-ce que ce sont deux chants qu'il distingue, lui, qu'il différencie comme étant des chants séparés, ou est-ce que c'est un seul et même canal d'expression ?
À mon avis, il les distingue complètement. Et la réponse est double. Il les distingue complètement. Ce sont des formes complètement différentes. Et il faut qu'elles soient différentes pour que ça produise quelque chose. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui les unit profondément, c'est le troisième huit. C'est la vie, tout simplement. C'est-à-dire que la conception de Pasolini, elle est pan-vitale. Je ne sais pas comment il faut dire. La vie est tout. C'est un peu. Il dit parfois qu'il est freudien, Pasolini, ce qui est très bizarre parce qu'il n'a aucun rapport avec la psychanalyse. Il n'a pas réussi à se faire psychanalyser, il n'est pas théoricien de la psychanalyse. Mais je pense qu'il a depuis longtemps une relation avec Freud, c'est l'histoire de la libido. La libido, c'est la réalité, quoi. La sexualité, c'est la réalité. Et la sexualité au sens de la vie. Voilà. Donc là, la poésie et le cinéma, oui, c'est la même chose. Sauf que c'est deux techniques complètement différentes. Donc la réponse est complètement double.
Quand il écrit un texte, le cinéma de poésie, est-ce qu'il faut l'entendre comme, on va en entendre un extrait, mais auparavant, est-ce qu'il faut l'entendre comme une théorisation de ce qu'il fera en cinéma ou de ce qu'il a fait en poésie, en littérature ?
C'est difficile de dire non, mais moi je crois que non quand même. Je crois que non, tout simplement parce que, et aussi pour le dire tout de suite, pour éviter les ambiguïtés, parce que c'est tellement facile de penser que c'est le grand poète de la deuxième partie du XXe siècle, c'est un des grands poètes européens, c'est le grand poète italien, c'est celui qui a c'est pas forcément le plus grand, hein, tout ça n'a aucun sens de juger les gens comme ça, mais grand au sens aussi où il représente une sorte de poète avec un grand P, c'est-à-dire il rejoue le jeu de la figure du poète, également dans ses poèmes.
Dans quel sens ? En mettant en scène, par exemple, le processus du poète, par exemple, du poète antique ?
Non, en se mettant en scène, lui, c'est quelque chose qui est étudié aujourd'hui. Pasolini est un artiste de la performance, et ça ne se voyait pas quand il était vivant, et ça ne se voyait pas à son époque. On ne voyait pas ce côté presque avant-gardiste de Pasolini, parce qu'il était contre les avant-gardes. Il apparaît comme un classique. Mais en réalité, rétrospectivement, on relit Pasolini aujourd'hui d'une autre manière, en se disant que ce n'était pas seulement une agression des mass-médias, une agression de la presse qui faisait qu'il existait avec son corps mis en avant et sa personne et ses affects mis en avant, mais c'est aussi un principe poétique. Et ça fait partie d'une présentation de soi. Et il se présente comme martyr, il se présente comme poète, il se présente de différentes manières, hein, comme bête de style, bestia da style, et c'est une des définitions possibles. Et donc la question était, j'ai perdu le fil.
Moi aussi, mais par contre j'en ai une autre. Dans l'introduction, j'ai parlé d'un rapport concret entre la poésie et le cinéma. Mm-hmm. Jusqu'alors, on a parlé de poèmes qui se tenaient devant la peinture, par exemple, mm-hmm. ou de poèmes qui soutenaient la scène, qui soutenaient l'action théâtrale. En quoi est-ce que l'idée du concret est importante pour parler du travail de Pasolini ?
Voilà, j'ai retrouvé le fil aussi.
Parce que ça a un petit rapport,
ben oui,
nécessairement.
C'est que le cinéma de poésie. Voilà, le cinéma de poésie, c'est pas un art poétique. Voilà, c'est pas une théorie du cinéma en tant que poétique. Et du coup, il est difficile de proclamer que le cinéma de Pasolini est un cinéma de poésie. Puisqu'il a écrit, enfin, avant d'écrire, il a tenu une conférence. En fait, c'est un texte, le cinéma de poésie est le titre d'un texte qui se trouve dans l'expérience hérétique, mais il a été recueilli plus tard. En fait, c'est un texte très actif, c'est un texte d'action, puisqu'au départ, c'est une conférence au premier numéro du nouveau festival, enfin, du festival de Pesaro, qui est le festival du nouveau cinéma. Donc, ça va tout à fait avec l'idée de comment penser le contemporain. Comment penser ce qui est en train de se passer avec des nouveaux cinéastes et un renouvellement du cinéma. C'est ça l'enjeu. Et Pasolini, comme d'habitude, enfin comme il le fait souvent, se met dans une relation de bataille, mais de polémique réelle avec des jeunes cinéastes. Et en gros, il les traite de cinéma de poésie. Ah, c'est une des façons de comprendre le cinéma de poésie. Donc il se donne, lui, comme différent. Et ça, c'est toujours très important de le rappeler. Et la différence, il l'a appelé le cinéma poétique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre cinéma de prose et cinéma de poésie. Et ça, c'est le premier sens de son article et de sa théorisation. Parce que là, de fait, il s'agit bien d'une théorisation. Mais il y a aussi une autre manière de couper. Et on coupe entre cinéma de poésie et cinéma poétique. Et en deux mots, c'est vraiment très simple. Cinéma de poésie, il y a quelque chose de technique, en quelque sorte. Il y a une volonté d'être poète. Et puis, il y a la poésie de la vie et la poésie qui est presque, qui est donnée, mais qui est impalpable. Et c'est celle de Mizoguchi, c'est celle de Chaplin, c'est celle de Murnau. Et c'est là qu'il veut aller. Alors, il ne revendique pas d'être Murnau ou d'être Chaplin, parce qu'il les met très haut en tant que cinéaste. Mais en tant que cinéaste, il ne se met pas du côté de du volontarisme poétique, c'est-à-dire d'un certain formalisme, puisque cette idée de cinéma de poésie naît chez lui dans une conférence où il reproche à des jeunes cinéastes le formalisme. Un certain type de formalisme qu'il appelle cinéma de poésie.
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut entendre cette phrase que j'ai trouvée assez extraordinaire dans la bande-annonce d'Akaton qui dit « c'est un film qui n'est pas né du cinéma mais d'une expérience poétique ».
Non, parce que c'est avant et donc on le comprend autrement. D'abord, je trouve ça plutôt intelligent, ouais, cette façon de présenter le film. Ça m'a aussi beaucoup surpris quand je l'ai vu pour la première fois.
Pas né du cinéma, quand même.
Ouais, parce que c'est une bande-annonce, c'est une bande-annonce parfaitement commerciale, c'est un bandeau commercial. Et pourtant, c'est malin. Enfin, c'est-à-dire que ça vend le film. Bon, c'est vrai que c'était un petit film avec un petit budget, ce qu'on appelle aujourd'hui cinéma d'auteur, hein, donc ce n'était pas facile de le vendre. Mais ça vend Pasolini comme connu dans le monde des lettres. Et en fait, il est connu aussi par les journaux, parce qu'il est attaqué pour différents scandales qui n'ont rien à voir avec lui, mais qui sont contre lui. Et du coup, c'est ça qu'on exploite. Mais alors, ça donne quelque chose d'assez intéressant, effectivement. Donc, pas né d'une expérience poétique, ça ne veut pas dire né d'une pensée poétique ou d'une théorie poétique ou d'un art poétique, ça veut dire la poésie de la rue, la poésie de l'expérience vécue. Donc, je reviens au troisième terme, qui est la vie. Troisième moment de sa vie, quoi. Le troisième moment de sa journée.
Mais on entend aussi pas né du cinéma. Quand vous dites, alors c'est peut-être après, mais quand vous dites qu'il vient chercher la querelle ou la discussion avec des jeunes cinéastes qui travaillent la forme, est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut entendre n'être pas né du cinéma?
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça marche assez bien, puisque au fond, pas né du cinéma, c'est aussi être contre ceux qui prennent le cinéma comme une sorte de moment réflexif, quoi, du cinéma qui va parler du cinéma.
Et qui
s'engendre lui-même.
Et donc là, il sortirait de ça en disant
ouais,
« je ne suis pas né du cinéma, donc
absolument.
Je... »
Absolument.
Bon. Dans sa recherche d'un dictionnaire en tant qu'opération fondamentale et préliminaire, l'auteur cinématographique ne pourra jamais recueillir de termes abstraits. Là est probablement la différence essentielle entre l'œuvre littéraire et l'œuvre cinématographique, si tant est que cette comparaison soit nécessaire. L'institution linguistique ou grammaticale de l'auteur cinématographique est constituée d'images. Et les images sont toujours concrètes, jamais abstraites. Ce n'est que par une prévision à très long terme, des millénaires, que l'on peut concevoir des images symboles qui seraient soumises à une évolution comparable à celle des mots, ou au moins des racines, qui, originellement concrètes, sont devenues abstraites par les fixations de l'usage. C'est pourquoi le cinéma est, pour le moment, un langage artistique non philosophique. Il peut être parabole, jamais expression conceptuelle directe. Voici donc une troisième manière d'affirmer la nature foncièrement artistique du cinéma, sa violence expressive, sa matérialité onirique. Tout cela devrait donner à penser, en conclusion, que la langue du cinéma est fondamentalement une langue de poésie. Bien au contraire. Historiquement, dans la pratique, après quelques tentatives aussitôt avortées à ses origines, la tradition cinématographique qui s'est formée semble être celle d'une langue de prose, ou du moins d'une langue de la prose narrative. Cela est vrai, mais comme nous le verrons, il s'agit d'une prose particulière et subreptice. Car l'élément fondamentalement irrationnel du cinéma ne peut être éliminé.
Hervé Joubert-Laurencin, Cyril Baer lit un extrait du cinéma de poésie, le texte que nous évoquions. Avant d'entrer profondément dans ce que ce texte soulève, est-ce que vous pouvez rappeler le pourquoi du comment il le publie? Est-ce qu'il reçoit comme accueil?
Oui, il le publie tardivement en 1971 dans un livre qui s'appelle Empirisme hérétique, en réalité Empirismo Heretico, qui a été traduit en français bizarrement L'expérience hérétique. Mais le vrai titre, c'est Empirisme hérétique, qui donne une forme déjà à la façon de penser de Pasolini. Ce n'est pas un théoricien pour la théorie, c'est un empiriste en même temps. Ce qui je trouve très beau aussi. Mais ça, c'est la reprise finale parmi d'autres textes sur la linguistique, sur la langue, sur la littérature et sur le cinéma. Donc, voilà. Mais au départ, comme je le disais, c'est un texte d'action, puisque c'est une conférence. Il l'a écrit pour le dire devant toutes sortes de gens. Il y a des gens rassemblés qui sont les futurs sémiologues, donc Umberto Eco, Roland Barthes, Christian Metz, et puis lui qui fait office de théoricien, bizarrement, alors qu'il est du côté des cinéastes. Et puis de l'autre côté, il y a des cinéastes comme Godard, comme les gens des cahiers du cinéma, et ils ne se comprennent absolument pas du tout, les futurs professeurs et les cinéastes qui théorisent à partir de la critique. Et Pasolini a une drôle de place en plein milieu des deux. C'est-à-dire qu'il tient des deux. Et c'est ça qui est absolument formidable chez lui, c'est qu'il passe de l'un à l'autre sans jamais être chez personne. Voilà. Donc ça a eu une très belle suite, on en parle encore aujourd'hui. Hein. C'est dans l'histoire des théories ou des écrits sur le cinéma, c'est sûr que c'est celui qu'on a retenu sur la question de la poésie de cinéma. Quoi.
Et de la langue, dans l'extrait qu'on a choisi, alors évidemment parce que c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, mais il est question de cette langue de la poésie, et d'une, ici brièvement exposée, mais de manière fort claire, l'opposition entre l'image qui relève du concret et le mot qui relève de l'abstrait, et de l'image qui ne dispose pas de dictionnaire, pour parler de manière très concrète pour le coup, et du langage qui lui en dispose. Ce qui fait de l'expérience de la littérature et de l'expérience du cinéma, deux expériences qui en effet sont forcément différentes. En quoi est-ce qu'il tout de même parle d'une langue de la poésie qui serait active au cinéma ?
Mais justement, la façon de faire de Pasolini, sa façon de faire, sa façon d'écrire, sa façon de faire des poèmes et sa façon de penser, c'est la même, c'est toujours la même, c'est très unifié. Et c'est une intrusion de choses qui ne sont pas faites pour aller ensemble. Donc, il fait venir la langue à l'intérieur du cinéma. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à ce qui ensuite devient la sémiologie, qui ensuite devient, par le structuralisme, la sémiologie des professeurs, mais que lui laisse tomber, parce que pour lui, c'est une forme de philosophie, en quelque sorte, parfois presque à la limite de la métaphysique. Mais ce qui l'intéresse, c'est le moment où ça frotte, c'est-à-dire que la langue entre dans le cinéma. Le cinéma n'est pas fait pour la langue, au fond.
De quelle manière il l'a fait entrer dans le cinéma, la langue ? Par quel procédé actif ?
Justement, cette distinction. La distinction qui me paraît absolument abusive, c'est de penser qu'il y a un cinéma de prose et un cinéma de poésie. C'est totalement abusif par principe. C'est-à-dire que, comme toutes les définitions possibles de la poésie sont linguistiques, précisément, ou stylistiques, enfin, elles tiennent à la langue. Donc, toutes celles qu'on a définies depuis toujours, c'est la langue. Quand on regarde le cinéma, c'est très difficile. On ne peut pas retrouver les mêmes éléments. Donc, techniquement, c'est presque impossible de différencier. Et pourtant, tout le monde, c'est ce que dit aussi le texte qu'on a entendu, tout le monde se dit ça. L'expérience commune, c'est bien de dire ça, je sens que c'est poétique ou je sens que c'est prosaïque. Et on sent qu'il y a du prosaïsme. Donc, il y a eu ce que rappelle Pasolini, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a écrit le premier qui s'est intéressé à la question, Shklovsky. Enfin, le premier qui a écrit la même chose, c'est-à-dire qui a voulu imaginer ce que serait une différence prose-poésie si on faisait cet acte un peu barbare de l'appliquer au cinéma, qui n'est pas fait pour ça parce qu'il n'a pas de langue. Et c'est Shklovsky, donc un formaliste russe, hein, que Pasolini d'ailleurs a aidé à publier à l'époque en Italie. Et lui pose la question justement que reprend Pasolini et que reprend tout le monde, parce que c'est aussi un peu ce qu'on imagine tout le temps quand on se pose cette question. D'un côté, il y a du formalisme en quelque sorte. Il y a une forme ou une domination de la forme, et de l'autre côté, il y a une domination du récit. Si je peux lire deux lignes de Shklovsky, ça date de 1927, c'est le fameux livre des formalistes russes spécialisés sur le cinéma qui s'appelle Poetica Kino, justement, avec le sens de la poétique. Ça finit comme ça. Je le répète, il existe un cinéma de poésie et un cinéma de prose, et c'est là que réside la distinction entre les genres. Il ne se distingue pas par le rythme, ou pas uniquement, mais pour le cinéma poétique, par la prédominance des traits techniques et formels sur les traits sémantiques. Et dans la composition, la solution est fournie par des traits formels qui remplacent ici les traits sémantiques. Le cinéma sans intrigue est un cinéma de poésie. Donc d'un côté, il y a l'intrigue. Ouais.
Bon, ça, qu'est-ce qu'il dit quand il dit « il faut saper le narratif, il faut saper la narration »
Pasolini dit ça.
Ouais.
Ah bon ? Il faut s'appeler le narratif. Ouais, enfin, c'est un grand conteur aussi, mais...
Mais ça n'empêche l'un n'empêche
le dire,
pas l'autre.
Il peut le dire, mais il ne peut pas en rester là. C'est-à-dire que il y a... En fait, ça c'est la première idée, mais on peut en imaginer une autre. Et en gros, c'est ce qu'il invente pour sortir de ce dilemme. Hein, puisque effectivement, le dilemme, ça sera toujours ça. D'un côté, des traits formels, et de l'autre côté, du narratif, de l'intrigue, du récit. Et le récit serait du côté de la prose, tandis qu'on aurait la poésie ailleurs. Mais dans une sorte de destruction du récit. Mais au fond, ça ne peut pas être aussi simple. Ou alors, c'est aussi simple, mais il faut l'expliquer de façon plus précise. Et donc, ce qu'il imagine dans son... il fait une espèce de coup de théâtre à l'intérieur de sa conférence, donc de son texte qui s'appelle « Le cinéma de poésie ». Et il dit « Bon, maintenant, je m'arrête et je vais vous proposer autre chose. » C'est d'imaginer ce que serait le discours indirect libre si on l'appliquait au cinéma. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sa technique, c'est de mettre à l'intérieur de quelque chose
quelque chose qui n'est pas fait pour.
Voilà, ça n'est pas fait pour, et on va essayer de faire entrer des choses carrées dans des choses rondes, et on va voir ce que ça va donner, et on va construire avec ça. C'est un mode d'ailleurs, c'est un mode à la fois constructif et destructif, qui est tout à fait propre à sa poétique en général. Donc il essaye le discours indirect libre, qui est une chose assez subtile quand même, hein, et qu'il connaît bien, parce que Pasolini est un stylisticien. C'est vraiment quelqu'un qui est formé à l'étude grammaticale, à l'allemande, qui a fait ses humanités, et puis qui n'est pas qu'un écrivain, qui est quelqu'un qui est un vrai théoricien de la littérature et de la langue. Et donc, il sait parfaitement ce qu'a écrit Bakhtin sur le discours indirect libre, comment on retrouve le discours indirect libre comme style dans un roman, ou le style indirect libre. Et puis, il essaye de voir ce que ça donne au cinéma. Et il fait une tentative. Vous voulez que je vous l'explique ou on n'a pas le temps ?
Oui. Alors, comment en rester là, Jean-Michel ?
Ben voilà, comment on peut s'arrêter là ? Bon, ce n'est pas trop compliqué, je crois. Mais il faut prendre discours direct, discours indirect, discours indirect libre. Donc, le discours direct, c'est quand on met deux points, ouvrez les guillemets. C'est-à-dire quand on
elle
cite...
Elle dit deux points.
Voilà, elle
allez-y.
Dit deux points. Voilà. Le roi dit deux points, j'ai failli attendre. Et puis ensuite, le discours indirect libre, bon, en français, on met des que, et puis on change les temps des verbes. Donc, ça donne le roi dit qu'il allait attendre. D'accord ? Ça, c'est le discours indirect, mais c'est très codé.
Qu'il avait failli.
Ou qu'il avait failli attendre, pardon. Voilà. Et enfin, discours indirect libre, il avait failli attendre. Donc, tout d'un coup, dans « Il avait failli attendre », on entend une forme de style, une certaine façon de parler qui est celle du personnage. Mais ce n'est pas tenu par le personnage dans un discours qui est entre guillemets, c'est assumé par celui qui fait le discours, qui tient le discours, par le narrateur, donc par l'écrivain. Et Pasolini d'ajouter, c'est là que ça devient intéressant, c'est un problème de lutte de classe, enfin de conscience, pas de lutte de classe, mais de rapport de classe, hein, de conscience de classe. C'est-à-dire que toujours il y a une différence entre celui qui parle, c'est ce qu'il a fait lui, hein, la mimésis du discours des pauvres, hein, des discours exclus. Hein. Et c'est ce qu'il a fait dans ses romans, qui sont des romans expérimentaux. Donc, il y a l'écrivain qui, lui, parle avec un certain style. On suppose qu'il a un certain niveau de langage. Et puis, il utilise le niveau de langage de ses personnages. Et donc, il y a une différence sociale. Et la différence sociale se lit à travers le style, à travers, plus exactement, la grammaire, comme l'a enseigné Gramsci, parce que Pasolini, au fond, est gramscien. Donc, il y a des différences de classe dans la grammaire. Et ça, c'est intéressant pour la poésie. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi quand on dit « il avait failli attendre », c'est qu'il y a à la fois la narration, à la fois le récit, à la fois le littéraire et à la fois toute l'action de l'attente qui est présent dans le même temps, dans la même phrase, dans la même
superposition.
Image.
Voilà.
Ce qu'on disait avec Dominique Fourcade en début de semaine, tout peut arriver dans la page, même si dans un texte les choses arrivent de manière successive. Finalement, ça peut être un canal seul et unique. En quoi est-ce que cela, c'est visible à l'écran, dans un
voilà
film
le problème. Voilà le problème, c'est comment passer ça au cinéma. Et là, ça devient super compliqué. Comment passer ça au cinéma ? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'au cinéma, le regard d'un bourgeois et le regard d'un sous-prolétaire, comment les différencier ? On ne les différencie pas. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. D'où la complication de l'explication de Pasolini. Et alors, il essaye de s'en sortir avec la question de la subjectivité. Enfin, ce qu'on appelait à son époque la subjectivité, aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas... Moi, ce n'est pas ma spécialité, mais des traces d'énonciation. Quoi. C'est-à-dire quand, au cinéma, on voit quelque chose, mais par exemple, on voit à travers des lunettes d'approche, et on a un rond noir qui fait comprendre que c'est vu par quelqu'un qui est en train de regarder avec des lunettes d'approche, avec des jumelles. Et donc, on voit l'image, mais en même temps, on sait qu'elle est vue par quelqu'un. Et ça, c'est une préoccupation de Pasolini, puisque quand il écrit son scénario, il écrit toujours la formule « comme vu par ». Comme vu par Akaton, comme vu par Mama Roma, etc. Donc il y a des, on sait qu'il y a des plans qui sont les points de vue de personne, et il y a des plans qui sont les points de vue de quelqu'un. Et heureusement, il est arrivé un jour Gilles Deleuze qui a tout expliqué, et depuis Gilles Deleuze et l'image mouvement, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Voilà.
En même temps, ça rejoint aussi l'une de ses définitions du cinéma de poésie quand il dit « il faut qu'on l'on sente le regard de la caméra, on doit sentir la caméra doit être parfumée ». Derrière ça, il dit aussi « il faut qu'on sente l'auteur, il faut qu'on sente celui qui regarde, que ce soit le cinéaste ou le personnage, il faut que l'on sente une subjectivité, une prise de position, une action du regard ». Finalement, ça va aussi dans ce sens-là.
Oui, vous avez raison, c'est la relation qui unit les deux façons d'arriver à une idée de cinéma de poésie, c'est-à-dire de la poésie différente de la prose au cinéma.
Il y a quelqu'un derrière.
Oui, parce qu'au départ, ça vient de... Il dit dans un entretien que ça vient d'une boutade, c'est-à-dire que son idée, qu'il a traduit, et vous avez raison donc de dire que les deux choses sont liées, qu'il a expliqué avec cette attirail finalement de la stylistique, hein, ça vient d'une idée, c'est au cinéma, de temps en temps, on sent la caméra. Alors quand vous dites parfumé, ça me fait plaisir parce que je crois que c'est moi qui ai ajouté cette idée
c'est
de parfum.
C'est tout à fait vous.
Et je l'ai pas lu chez Pasolini, mais j'avais lu, je crois, un livre de Jacqueline Risset sur Dante qui parlait de la panthère parfumée, qui était la langue chez Dante. Hein. C'est la panthère parfumée, et donc c'est déjà la langue qui sent quelque chose. C'était peut-être d'ailleurs une idée inconsciente chez Pasolini de cette idée de la langue qu'on sent quelque part. C'était le vulgaire, hein, qu'on sent, la langue vulgaire qu'on sent, qu'invente Dante, qui va chercher au-delà du latin.
Mais c'est aussi l'histoire, et c'est aussi l'archaïque, et c'est aussi tout ce qui sent, c'est aussi tout ce qui précède. Mm-hmm. Et c'est l'appareil cinématographique qui est utilisé comme ne venant pas de rien. Il a beau faire des films qui ne naissent pas du cinéma, ça naît de quelque part.
Oui, ça naît de la réalité, toujours pour lui, toujours, oui. Donc voilà. Et donc on sent la caméra. Vous voyez je pense qu'on peut comprendre là l'idée de sentir ou pas sentir, sentir que quelqu'un voit ou que quelqu'un d'autre voit, et on le met en relation avec cette idée du discours indirect libre. Et là, on comprend que c'est assez compliqué la posture que doit avoir le cinéaste au fond. Quelle est la posture du cinéaste ? Est-ce qu'il est à l'intérieur de la conscience de son personnage ou pas ? Voilà. Et c'est ce mixte des. En fait, l'important c'est le mixte entre les deux. Ce qui intéresse Pasolini, c'est qu'il y a un écart au départ de classe. Qui dit quelque chose de la différence des classes à l'intérieur de la grammaire. Et de la même façon, au cinéma, il y aura une superposition entre le regard supposé du cinéaste, qui serait peut-être la subjective indirecte libre, puisque c'est comme ça qu'il appelle le discours indirect libre appliqué au cinéma, subjective indirecte libre, et puis aussi le regard de ces personnages qui pourraient peut-être vivre sans le cinéaste. Et ça, là, en ça, ça rejoint des questionnements qui sont tout à fait fondamentaux chez les pas les théoriciens, mais les stylisticiens du cinéma que je préfère, quoi, chez les gens qui ont écrit sur le cinéma, c'est-à-dire essayer de savoir si le personnage vit en dehors du film ou pas, vit en dehors de la narration ou pas, vit avec ce qu'a fait le cinéaste avec lui ou pas, prend son autonomie, ou bien est-ce que le cinéaste, lui, on va sentir quelque chose qui vient de lui et qui n'est pas forcément du personnage ou de l'histoire, etc. C'est des choses assez subtiles, mais qui sont très importantes. Et c'est, on peut penser que ça vient de cette espèce d'intrusion de coin théorique qu'a enfoncé Pasolini. Parce que cette idée de dire, il y a une distinction là, ça c'est de la prose, ça c'est de la poésie, c'est le début de toutes les possibilités de sentir quelque chose de subtil qui n'est pas immédiatement sensible dans les films.
Et c'est aussi là, ouais, le désir d'une complexité. C'est aussi, quand il dit « ce qui m'intéresse, c'est rendre l'expérience du réel et convoquer un réel qui ne peut pas être là par les moyens que j'ai, à savoir l'image et les mots », c'est aussi faire advenir une complexité et désirer cette complexité et du coup la faire advenir de manière complexe.
Mmh. Ou simple.
Ou simple. Ou simple et complexe.
C'est pas pour...
Non mais c'est pas... vrai, c'est...
Oui,
ça peut très bien être simple,
c'est-à-dire,
et complexe.
Ou brusque. C'est-à-dire, il y a cette idée de fulguration qui revient toujours chez Pasolini. Donc c'est pour ça que je dis « est simple ». C'est-à-dire que la plus grande complexité va pouvoir se saisir dans un instant fulgurant.
Arriver d'un coup.
Seulement dans un instant fulgurant. En général, un instant de coupe, d'interruption. C'est dans l'interruption que quelque chose peut se saisir. En ça, il n'est pas le seul à avoir pensé des choses comme ça. Hein. Je veux dire, Lacan n'en serait pas loin. Mais en tout cas, c'est la fulguration qui reprendrait l'ensemble, qui saisirait quelque chose, oui, qui serait capable de saisir. Ça, c'est poétique, je pense.
del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente.
Hervé Joubert, Laurent Saint, c'est un extrait de la Rabbia, ou en tout cas c'est la voix, c'est Giorgio Bassani qui lit.
Là, il y a vraiment une chose qui me surprend énormément, c'est que j'ai cru reconnaître la voix d'Orson Welles brusquement. Donc je viens de faire une expérience sensorielle étrange, mais j'ai effectivement reconnu la voix d'Orson Welles et tout d'un coup je me rends compte que c'est Giorgio Bassani, bien sûr, c'est la voce in poesia, la voix en poésie du film, tandis qu'il a choisi un peintre expressionniste, on pourrait dire, Renato Guttuso, pour la voce in prosa. Donc il y a une voix politique, revendicative, presque agressive, qui fait la prose, et il y a cette voix extrêmement douce de son ami Bassani, qui est un subtil littérateur. Mais Bassani fait aussi la voix d'Orson Welles, double Orson Welles dans la Ricotta.
Ok.
Et c'est pourquoi j'entendais Orson Welles, je trouve ça génial. Et je crois bien aussi que c'est lui qui fait la voix du corbeau intellectuel marxiste, le corbeau qui parle dans Uccella Cicciolini.
Je ne sais pas. En revanche, on peut dire que ce film, c'est un film qui cause bien des soucis à Pasolini. En 1963, La Rabbia, c'est un montage d'archives des années 1950-1960. On entend un extrait qui est ici consacré à Marilyn Monroe. Très bel extrait sur la beauté, où on pourrait aussi réfléchir à la lutte des classes ou à la conscience des classes rapportée à la beauté. Pourquoi est-ce que ce film-là et l'expérience de montage ont terminé notre conversation sur la fulgurance qui arrive dans le moment de coupe? Pourquoi est-ce que l'expérience de montage proposée par La Rabbia est une expérience de langue de poésie dans le cinéma par Pasolini?
C'est probablement la première expérience complète presque technique, mais qui n'est pas théorisée, puisque la conférence du cinéma de poésie est plus tardive. Mais là, c'est une première expérience magnifique. Moi, un jour, je me suis rendu compte que là aussi, il avait essayé de prouver qu'il existait une différence prose-poésie à l'intérieur du cinéma et qu'il l'avait fait de façon pratique. C'est-à-dire que c'est la première fois de sa vie qu'il a fait un film de montage, c'est-à-dire qu'il n'a pas tourné les plans, il a sélectionné les plans dans ce qui serait l'équivalent de la télévision d'aujourd'hui, c'est-à-dire des plans d'une insigne vulgarité pour beaucoup, et à l'intérieur desquels il va trouver les choses extraordinaires qu'il va montrer. Et comme il y a beaucoup de vulgarité, il va appeler ça du prosaïsme. Et il va imaginer qu'il y a des moments qu'il juge poétiques et des moments qu'il juge prosaïques. Donc il fait l'expérience, c'est-à-dire que, comment dire, il a le culot non seulement de choisir des moments de ce Cine Journal et de ses actualités, mais non content de les avoir choisis, de leur donner sens avec un texte. En plus, il décrète que certains sont poétiques et que d'autres sont prosaïques. Et ça, c'est toute la force du film. La force incroyable du film, elle est là-dedans. Et donc, il l'a fait avec le choix de casting des voix. Il a choisi Guttuso et Bassan. Et immédiatement, on entend une voix douce et une voix forte. La voix douce, c'est la poésie. La voix forte, c'est la prose. Et immédiatement, on sait qu'on est devant des images de prose ou des images de poésie. Et il faut savoir si on est d'accord ou pas.
Et ce qui n'empêche pas, une fois réunies ces deux propositions, d'en faire un langage de poésie en entier, que ce soit la partie prosaïque ou la partie poétique. C'est qu'encore une fois, il va travailler l'opposition, ou la dichotomie, ou le moment où ça frotte. Mais pour autant, tout le geste est un geste qui est poétique.
Oui, on peut toujours le dire, mais non.
Non.
Non, je ne dirais pas ça.
Alors
non.
Pourquoi ?
Je dirais pas ça. C'est un film qui donne un sentiment poétique général. C'est ça que vous voulez
dire.
Oui,
c'est ça que je veux dire.
Mais c'est aussi un film qui est coupé et qui est coupé par c'est du noir et blanc, quoi. C'est-à-dire qu'on doit être envahi par un sentiment qui est un sentiment de poésie et brusquement ramené dans un moment profondément prosaïque. Ridicule, scandaleux, vulgaire, c'est surtout vulgaire.
Oui, mais le travail des deux, est-ce que
le travail des deux,
la tension que ça installe.
Mais c'est dans un autre sens alors, oui. Dans un sens général, on peut dire que tout ce que fait Pasolini est poétique, par exemple. Tous ses films, on pourrait dire qu'ils sont poétiques. Et
ça n'est pas complètement inutile de le dire, on
ne
l'a pas dit
sûr,
jusqu'à maintenant.
On peut le dire.
Non, mais c'est vrai.
On peut le dire, mais.
On fait naître une. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la poésie comme étant un territoire qui a été pensé, qui a une histoire à l'intérieur de la littérature, et là. Introduite ou induite dans le cinéma. On peut aussi parler de ce que c'est qu'un geste poétique. On est jeudi, on peut se permettre.
Ouais.
Dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas inutile de considérer que l'ensemble du geste de Pasolini, que ce soit l'Arabia ou le reste, est un geste poétique ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais moi je suis contre.
C'est pas la question que je pose.
Oui, mais moi je suis contre. Parce que ça revient à dire que... Pasolini est poète, voilà. Pasolini est poète, donc tout ce qu'il fait est poétique. Il est d'abord poète, donc quand il est cinéaste, il est poète. Moi, j'ai toujours travaillé contre cette idée. Voilà. Je pense qu'il est cinéaste quand il est cinéaste, qu'il est poète quand il est poète. Romancier, c'est un autre problème, parce que je crois qu'il n'a jamais été romancier, il n'a jamais voulu se laisser dominer par la forme roman. Ça, c'est une chose que je pense profondément pour l'œuvre générale de Pasolini. Je pense qu'il a fait des faux romans ou des romans expérimentaux. Il a toujours été très expérimentateur dans le roman. Donc, il n'est pas romancier. Mais il est poète, c'est évident.
Il n'est pas poète quand il est cinéaste, selon vous ?
Pas toujours, non. Non, pas toujours. Il est d'abord cinéaste, ce qui est une chose différente. Et après, il y a une autre question, et c'est pourquoi on est d'accord quand même. Il y a une autre question qui est le sentiment poétique. Il y a le geste poétique et le sentiment poétique. Donc, il y a un sentiment poétique du monde. Et alors là, on pourrait dire probablement que son cinéma ne travaille qu'avec le sentiment poétique, qu'il est incapable de travailler hors d'un sentiment poétique, du sentiment poétique de la réalité.
Parce qu'il travaille avec le vivant.
Ça, d'accord. Oui. Oui, comme le cinéma le plus souvent. C'est quand même toujours vivant, sauf... Peut-être que le dessin animé n'est pas vivant, mais encore qu'il joue avec le vivant d'une autre manière. Mais oui, le cinéma profondément est un rapport avec le vivant qui est particulier dans les arts, qui n'est pas le même que les autres arts, qui travaille d'abord avec le vivant, ou d'abord avec la réalité, qui n'est pas la même chose que le réel, pour moi. Et je pense que Pasolini était profondément... Dans cette problématique. Donc, la question de la poésie, oui, elle se repose en termes de poésie dans la vie. C'est la différence entre la poésie dans la vie et la poésie qu'on écrit. La poésie qu'on pense et la poésie qu'on écrit. Ce sont des distinctions quand même importantes que Pasolini fait lui-même, pense.
Arrive donc à 16h54 la poésie qui n'a pas été seulement pensée mais qui a été écrite, en l'occurrence par Adam Zagajewski. Ce poème nous est lu par Laurent Natrella. Il est puisé dans le recueil Mystique pour débutants et autres poèmes. Il est traduit par Maya Vodeka et Michel Chandaigne. Il s'appelle, comme c'est beau, De la natation.
De la natation. Les rivières de ce pays sont douces, comme le chant des troubadours. Un soleil lourd chemine vers l'ouest, dans les roulottes jaunes d'un cirque. Dans les petites églises de campagne, tombe l'étoffe d'un silence tellement mince et tellement ancien qu'un simple souffle peut le déchirer. J'aime nager dans la mer qui monologue, toujours avec la voix monotone du voyageur qui ne sait plus depuis quand il est parti. La natation est comme la prière. Les mains se joignent et se séparent, sans fin, presque sans fin.
Alfredo Vini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò.
nella storia. Uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Venuzia, Vittorio, Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoggi architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò.
Hervé Joubert Laurencin, c'est la fin de l'émission et c'est un générique de début. De quoi s'agit-il ?
Uccellacci uccellini, des oiseaux, virgule, petits et gros, selon la traduction française poétique de Jean-Claude Biette.
C'est donc un générique de début qui est chanté.
Chanté.
Et où il y a la totalité de la distribution.
On a entendu tout leur rôle.
Voilà, et tout leur rôle et la musique. En écoutant ce générique que j'ai écouté tout à l'heure au bureau aussi, je me suis dit que peut-être ce sentiment poétique dont on parlait à la fin, sur lequel nous sommes tombés d'accord, est une forme de joie.
Oui.
Parce que c'est très joyeux.
Et de rire.
Et de rire. Merci beaucoup. Le dernier poète expressionniste écrit sur Pasolini est paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Et je parlais de deux livres tout neufs. J'en ai un devant moi, Le Sommeil Paradoxal, écrit sur André Bazin, cette fois-ci, aux éditions de L'Œil. Ça paraît, ça vient de paraître ?
Oui.
Ça vient de paraître. Et un autre, Ouvrir Bazin. Là, c'est un livre collectif que vous avez dirigé avec Dudley Andrew. Et c'est aussi aux éditions de L'Œil. S'il fallait conseiller un film pour commencer dans Pasolini, vous conseilleriez quoi ?
La ricotta.
La ricotta ?
Oui, c'est le plus drôle.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour réécouter toute cette émission, ou bien vous remontez le temps, ou bien vous allez voir du côté de franceculture.fr dans la rubrique émission au pluriel, à la lettre P, vous cliquez sur pas la peine de crier. Selon ce même principe, vous pouvez aussi retrouver les réécoutes de Polaroid à la lettre P, ou de Jeu des Malbas Bibliothèque à la lettre J, ou du poème du jour à la lettre P. Trois occurrences dans la lettre P. À chaque fois, vous pourrez vous abonner au podcast, ce qui est pratique pour cuisiner, par exemple. Ce même site permet de nous écrire et sachez que cela nous fait fort plaisir de vous lire. On peut aussi se donner des nouvelles via Twitter où nous signons @palapeine2. Aux manettes aujourd'hui, c'était Tristan Gratalon. Merci à Céline Geoffroy et Véronique Lamandour. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Demain, c'est vendredi, même heure, même signal.